Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. L'hommage aux blessés, tel sera le thème de ce 12e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Des manifestations sont encore prévues un peu partout en France, alors que le Conseil d'État a lui validé l'usage par les forces de l'ordre des lanceurs de balles de défense. Emmanuel Macron poursuit de son côté ses entretiens entrant dans le cadre du grand débat national. Il a passé 7h15 hier aux côtés d'élus d'outre-mer, non sans montrer quelques signes d'agacement, vous l'entendrez. Dans l'actualité de ce samedi également, les services sanitaires français à la recherche de viande douteuse en provenance de Pologne. Sur place, la fermeture de l'abattoir concerné fait débat. C'est aujourd'hui le jour de la Chandeleur, autrement dit le jour des crêpes. Nous irons en Bretagne, le pays de la crêpe et de la galette, pour découvrir ce qu'est la crêpe crase. Une mi-temps de trop pour nos rugbyman français, largement tête à l'issue de la première période. Les Bleus se sont finalement inclinés, battus 19-24 par les Gallois hier soir durant la deuxième mi-temps à l'occasion du match d'ouverture du tournoi des Six Nations. À 8h10 donc, le journal des sports présenté par Laetitia Bernard. Et à 8h20, l'incarnation individuelle au collectif de la République en compagnie de votre invité Eric Delvaux.
Oui, le professeur d'histoire Jean Garrigue, son dernier livre « La République incarnée » est une galerie de portraits des dirigeants français de Léon Gambetta jusqu'à Emmanuel Macron. Comment incarner la République? On en parle effectivement à partir de 8h20.
France Inter. C'est donc aujourd'hui le 12e samedi de mobilisation des Gilets jaunes avec une fois encore des rassemblements prévus un peu partout en France et un mot d'ordre, hommage aux blessés. Un hommage qui sera lui aussi national et qui prendra la forme à Paris d'une marche blanche. Les précisions de son organisateur Antonio.
Le but de la manifestation, c'est de rendre hommage officiellement et nationalement, puisqu'il n'y aura pas qu'à Paris où ça se passera, donc de rendre hommage à tous les blessés, toutes les victimes, directement et indirectement du mouvement du Gilet jaune, afin que chaque blessé ait une réponse juste de la justice, et également demander l'interdiction immédiate, puisqu'on ne lâchera pas, ça je vous le dis clairement haut et fort, on ne lâchera pas, pour l'interdiction donc des armes dites non létales. En l'occurrence, on parle des grenades de type Gli F4 et des LBD 40.
Voilà. Des propos recueillis par Gaël Joly. J'ajoute que le Conseil d'État a donc tranché hier en décidant de maintenir l'usage des lanceurs de balles de défense, les LBD, dans les manifestations et ceci en dépit des blessures infligées par ces armes dites non létales. Marche blanche donc pour les Gilets jaunes blessés à Paris, mais aussi dans plusieurs villes de France et de nombreuses manifestations prévues aujourd'hui encore un peu partout dans l'Hexagone et peut-être un épicentre situé cette fois-ci à Valence dans la Drôme, Thibault Lefèvre.
D'abord, la manifestation parisienne. Les principales figures du mouvement, Éric Drouet, Priscilla Ludowski et Maxime Nicole, appellent tous les trois au rassemblement. Un cortège qui partira en fin de matinée de la place Daumesnil dans le 12e arrondissement, avec en tête une vingtaine de blessés, éborgnés ou touchés à la tête ou aux jambes. Ils précéderont une foule de manifestants qui devraient porter de faux bandages sur les yeux et des gilets jaunes recouverts de taches de peinture rouge sang. Les blessés s'exprimeront ensuite place de la Bastille avant de rejoindre en fin d'après-midi la place de la République. Autre point de mobilisation, Valence dans la Drôme. Les autorités attendent 10 000 personnes et la ville s'est préparée à d'éventuelles violences. Et puis, comme tous les samedis depuis le 17 novembre, des appels au rassemblement ont été lancés à Nantes, Caen, Rouen, Bordeaux ou encore Toulouse, avec là encore de vrais risques de débordement en fin d'après-midi.
Et pour répondre à l'inquiétude des commerçants, souvent touchés par des débordements et des exactions, et le Premier ministre s'est rendu hier à Bordeaux, Édouard Philippe, qui à l'occasion de ce déplacement a fait la promesse d'une aide financière de l'État, aide qui pourrait s'élever au total, selon des sources proches de Matignon, à 3 millions d'euros.
Et pendant ce temps, Emmanuel Macron poursuit ses entretiens dans le cadre du grand débat national.
Et c'est à l'Élysée que le Président de la République s'est entretenu hier pendant plus de 7h15 très exactement, avec des élus d'outre-mer. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État n'a pas caché à certains moments quelques signes d'agacement. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention.
Est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été posées?
Oui, j'en ai
alors,
une, monsieur.
Et j'en prends deux, sinon... Non, donnez-moi, les enfants. Non, vous avez déjà parlé, monsieur le maire. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Non, non, non. Monsieur le maire, voilà, c'est moi qui donne le micro. Parce que... Non, non, mais c'est moi. Ce n'est pas une communauté autogérée. Mais je vous demande de vous asseoir. Voilà. Donc, vous vous asseyez... Là, on a fait les trucs, on a fait 5 fois la même question à chaque fois. Donc, je vais être sincère, c'est pas pour me lire le papier, pour... Non, non, c'est moi qui prends les micros. La discipline veut que, là, si je commence à répondre aux interpellations, en plus des 25 questions que j'ai rajoutées, on n'y arrive plus. C'est la fin des haricots.
Des propos recueillis par Maxence Lambrec. Emmanuel Macron qui poursuivra ses entretiens dès lundi dans l'Essonne face à des maires de banlieue et des responsables associatifs avant de se rendre en Saône-et-Loire pour y rencontrer cette fois-ci des jeunes. Ce sera jeudi.
Dans l'actualité ce matin encore, la mobilisation des services sanitaires français à la recherche de viande douteuse en provenance de Pologne.
Selon le ministère de l'Agriculture, ce sont au total près de 800 kilos, 795 très exactement, issus d'animaux abattus frauduleusement dans un abattoir du nord-est de la Pologne qui serait arrivé en France. Sur ces 800 kilos, 500 auraient été retrouvés dans 9 entreprises françaises et donc détruits. 150 kilos vendus aux consommateurs par des boucheries. Il resterait donc à trouver 150 kilos restants. En Pologne, l'abattoir concerné, qui a fait l'objet d'un reportage en caméra cachée montrant l'abattage de vaches visiblement malades, a été diffusé sur l'une des chaînes du pays, provoquant la fermeture de l'établissement. Toutefois, les images diffusées ont été diversement appréciées, comme a pu le constater sur place Thomas Giraudot.
À Kalinovo, tout le monde passe devant l'abattoir. Il est au bord de la route principale traversant le petit village. Le portail et les bâtiments sont fermés, comme les portes des maisons. Un seul habitant nous accueille chez lui pour dénoncer un reportage à charge.
C'est une manipulation. L'abattoir prend aussi des vaches saines qui n'étaient pas malades. Pourquoi les images ne le montrent pas? J'ai un ami éleveur, il a vendu 40 bêtes en parfaite santé à cet abattoir. Je regrette vraiment que l'établissement ait fermé.
Dans la ville la plus proche, les habitants sont eux beaucoup plus marqués par la violence des images diffusées. Evelina est pharmacienne.
Je suis vraiment choquée. J'ai vu le reportage il y a 3 jours et je ne m'en remets toujours pas. C'est horrible de traiter les animaux comme ça. Et puis on l'a mangé cette viande, c'est vraiment dégueulasse. Ça se passe juste à côté de chez moi et ça dure sûrement depuis des années.
À l'extérieur, Grzegorz, un jeune papa, s'inquiète pour sa santé et celle de son nourrisson.
J'ai découvert les images sur Internet. C'est vraiment horrible. J'ai un enfant en bas âge, il a à peine 1 an. Et j'ai vraiment peur qu'il ait mangé de la viande avariée. Je crois qu'avec ma femme, nous allons changer l'alimentation. J'en ai marre de la viande.
Pour tous les habitants rencontrés, le problème n'est pas isolé. En 2013, déjà, un autre abattoir polonais avait été épinglé pour avoir abattu des bêtes malades. Varsovie, Thomas Giraudot, France Inter.
Et selon Varsovie, cette viande frauduleuse provenant de bêtes potentiellement malades ne présenterait pas de risque pour la santé des consommateurs.
Dans un autre domaine, c'est aujourd'hui 2 février, le jour de la Chandeleur, autrement dit, le jour des crêpes.
Et alors justement, Eric, êtes-vous pour une crêpe Pays de Rennes ou bien alors une crêpe Finistère, autrement dit, plus crase? Vous voulez comprendre? Eh bien, c'est très simple.
Grand-chose à la crase.
Non, mais vous allez voir. Rendez-vous dans le temple breton de la crêpe, à l'école des maîtres crêpiers, justement, où s'est rendu Loïc Guélec de France Bleu Armorique.
Laurence est stagiaire à l'école des maîtres crêpiers de Rennes. Elle se prépare à monter un food truck en Eure-et-Loire. Elle nous donne les caractéristiques d'une bonne crêpe.
Bah, un petit peu croustillante, ensuite qu'elle soit bonne et qu'elle ait du goût, et surtout qu'elle soit faite avec des produits locaux.
En Bretagne, pour la crêpe en dessert, il y a 2 écoles, celle du Pays de Rennes et celle du Finistère, avec une crêpe plus crase, c'est-à-dire plus croustillante, et on ne les cuit pas pareil. Gilles Isola, responsable de formation à l'école des maîtres crêpiers.
Pour les avoir crases et pour ne pas qu'elles se délitent, bien souvent elles ne sont cuites que d'un côté. Là, je parle des crêpes sarrasins, et ça c'est vraiment la petite particularité qu'on va trouver du côté du Finistère. Alors qu'ici, au Pays de Rennes, comme on les fait un petit peu plus épaisses, un peu plus moelleuses, on a tendance à, pour les galettes nues, j'entends, pour celles qui ne sont pas garnies, on a tendance à les cuire un petit peu des deux côtés. Cuire une première face et dessécher de l'autre, pour qu'elles se tiennent bien.
Et puis, selon la tradition, on fait sauter la crêpe dans sa poêle avec une pièce d'or dans la main. Ensuite, dans l'assiette, c'est le bonheur. Christophe, futur crêpier, n'a que l'embarras du choix pour la garnir.
Ce que j'aime bien, c'est la base de caramel au beurre salé, ou d'une crème de citron, ou d'une frangipane. Et après, bah, y a les petits desserts traditionnels que l'on peut faire, quoi. Chocolat, chantilly, bien sûr, et puis voilà. Exceptionnel.
Et avec cela, un peu de cidre à consommer avec modération.
Voilà, vous l'avez compris, plus crasse, cela veut tout simplement dire plus croustillante. Nous allons rester dans l'ouest de la France avec la 25e édition du Festival de la musique classique, une folle journée comprenant 300 concerts sur le thème cette année des carnets de voyage et qui a pour cadre la cité des congrès de Nantes. Stéphane Capron.
Plutôt que de prendre l'avion et partir à des milliers de kilomètres, Gabriel et Marie-Vonne ont quitté l'Orient pour leur première folle journée.
C'est comme un rêve un peu. C'est un cadeau d'anniversaire en plus. On est des bisous là. Hein.
Il faut vraiment être au taquet pour réserver, les concerts.
C'est vrai que c'est tellement célèbre maintenant.
Les salles de la Cité des Congrès portent pour l'occasion le nom de grands explorateurs, Christophe Colomb, Marco Polo ou Magellan, et le programme laisse la place à l'imaginaire, comme avec celui du guitariste Emmanuel Rosfelder.
L'idée, c'était vraiment de faire participer cette guitare au sein de ces magnifiques instruments que sont le quatuor à cordes, le bandoneon, le piano, le chant, etc. Et les castagnettes, faut pas oublier. Que cette guitare, elle participe à la fête. C'est pas un accompagnement, c'est pas une mélodie principale. On communique, on dialogue musicalement ensemble.
Dépaysement garanti pour le public.
Depuis hier, que des bonnes pioches.
Je ne sais pas où j'étais, mais j'étais très loin. Et puis lui aussi.
Comment tu t'appelles ?
Arthur.
Tu as aimé ?
Oui.
Il a 5 ans. Voilà, il fait déjà du piano et je voulais un concert varié pour un petit garçon. Et je crois que c'était vraiment une très belle réussite.
Car l'idée de cette folle journée est de populariser la musique dite savante.
La folle journée, c'est à Nantes jusqu'à demain soir. Il est 8h10, l'heure de retrouver Éric Delvaux.